Chapitre 14. Le coup de foudre. 3 jours s'écoulèrent, au milieu des circonstances que nous venons de raconter, sans amener aucun changement dans la situation de nos personnages. Antoinette et Dolorès vivaient presque séparés de Philippe, quoique habitant sous le même toit que lui, tant ils mettaient de persistance à se tenir éloignés d'elle. S'il descendait dans la salle commune ou dans le préau au moment où elles y étaient, il affectait de rester au milieu des groupes d'hommes d'où les deux jeunes filles ne s'approchaient pas, à moins qu'elles n'eussent quelque chose d'important à faire connaître à leur ingrate amie. Ce qui manquait à Philippe, à la suite des événements dont nous avons retracé le récit, c'était la résignation. Il sentait bien que Dolorès était irrévocablement perdue pour lui, que si elle sortait vivante de sa prison, elle mettrait sur le champ une barrière entre eux. Mais tant qu'il la voyait, il ne pouvait se résoudre à subir le sort qui brisait son bonheur. Il espérait et désespérait tour à tour, se disant parfois qu'il aurait encore des accents assez éloquents pour fléchir Dolorès, et reconnaissant bientôt que rien n'ébranlerait les résolutions de cette jeune fille vouée au sacrifice par dévouement et par devoir. Antoinette et Dolorès respectèrent sa tristesse et son isolement. Elles vécurent seules presque toute leur journée dans leur petite chambre, heureuses d'être réunies, supportant mieux ainsi les anxiétés éveillées dans leur cœur sur leur sort à venir, affligées cependant, Antoinette surtout, de leur triste destinée, étonnée chaque soir de n'avoir pas été encore appelée devant le tribunal révolutionnaire et se disant non sans angoisse « Ce sera peut-être pour demain. » Le 4e jour de l'entrée de Philippe et d'Antoinette à la conciergerie, le guichetier Aubry, qui se montrait toujours prévenant et rempli d'attention pour Dolorès, obtint de s'absenter durant la journée et de se faire remplacer dans son service par Courcegol, présenté au geôlier chef de la prison comme son frère. Une fois déjà, l'on s'en souvient, il avait fait ainsi et Courcegol avait pu de la sorte passer une journée entière auprès de Dolorès. Ce jour-là, sa présence auprès d'elle s'expliquait par le désir qu'il nourrissait de l'arracher, ainsi que Philippe, au péril qui les menaçait. Il leur apportait le sauf-conduit sur lequel il avait écrit leur nom et qui, par sa teneur, devait rendre la liberté aux citoyens et à la citoyenne Chamondrin. Il ignorait l'arrestation d'Antoinette et, lorsqu'étant entré dans la cellule de Dolorès, il vit Mademoiselle de Mirandol, il ne put retenir un cri de douleur. « Vous étiez ici, mademoiselle ?»«
Ici depuis 3 jours, mon bon Courcegol, » répondit Antoinette.
« Mais le sauf-conduit ne vaut que pour 2 personnes, » s'écria-t-il avec douleur. Antoinette ne comprenait pas. Elle ne savait de quel sauf-conduit il était question. Dolorès s'approcha vivement de Courcegol et, lui parlant à voix basse, « Pas un mot de plus, » dit-elle, « donne-moi le sauf-conduit. Il servira en temps et lieu à qui il doit servir. » Courcegol obéit à regret. Il devinait que tous les efforts de Dolorès allaient tendre à faire partir Philippe et Antoinette. « Mais alors, pensait-il, je ne pourrai plus la sauver. » En ce moment, il se passa en lui quelque chose comme un combat. Il en voulait à cette Antoinette qui ne lui était rien, dont il n'avait pas connu l'enfance et qui, pour la seconde fois, venait mettre les jours et le bonheur de Dolorès en péril. Une première fois, se disait-il, c'est sa présence au château de Chamondrin qui a empêché ma chère Dolorès d'épouser Philippe. Aujourd'hui, alors que j'avais si bien travaillé pour assurer leur fuite et la réalisation de leurs espérances, c'est elle encore qui vient déjouer nos plans. Peut-être ses sentiments à cet égard allaient-ils se manifester. Mais Dolorès, comme si elle eût compris ce qui se passait en lui, fit un signe et il se retira. Il rejoignit Philippe, auquel il apprit que le sauf-conduit était entre les mains de Dolorès. « Il ne servira à aucun de nous, » dit Philippe, la voix pleine de regrets. « S'il pouvait ouvrir les portes de cette prison à 2 femmes, je les ferais sortir, elles. Mais puisqu'il faut que je sorte avec l'une d'elles, comme je sais qu'aucune ne voudra se sauver aux dépens de l'autre, nous resterons ici tous les 3. » Ainsi, s'écria Courcegol, tous mes efforts seront perdus et j'aurai la douleur de vous voir périr après avoir accompli des miracles pour vous sauver. Des larmes de colère brillaient dans ses yeux. Philippe l'apaisa. Il lui démontra l'impossibilité qui s'opposait à la fuite de 2
alors qu'ils étaient trois, se chérissant à des titres divers. Si l'un d'eux était abandonné par les autres, quel ne serait pas le remords qui pèserait éternellement sur la vie de ceux-ci ? À tous donc, il ne restait qu'un parti, s'échapper ensemble, sinon attendre ensemble le dénouement de leur captivité. Courcegold se promit alors de se livrer à des tentatives nouvelles pour avoir un sauf-conduit qui, cette fois, pourrait suffire à trois détenus. Il quitta la prison vers le soir, après avoir promis à ses jeunes amis de revenir sous peu de jours et le plus tôt qu'il le pourrait. Pendant qu'il était là, sa présence avait, par la force des choses et peu à peu, réuni dans la salle commune Antoinette et Dolorès à Philippe. Lorsqu'il fut parti, les trois jeunes gens se trouvèrent ensemble. « Persisterons-nous encore à nous fuir ?» demanda Antoinette à Philippe. « Non, non, je veux vivre de votre vie, » répondit Philippe, touché par tout ce qu'il y avait de tendre et d'affligé dans cette voix. « Autant que nous le pourrons, demeurons ensemble, afin que, si notre mort est prochaine, nous ne puissions pas regretter de n'avoir pas donné à l'amitié les instants qui nous restent. » « Bien, Philippe !» répondit Dolorès. Et, comme devant Antoinette, elle ne pouvait rien ajouter sans lui révéler ce qui lui avait été caché jusque-là, elle tendit la main à son ami. Ils restèrent ensemble jusqu'à l'heure où le signal ordinaire avertit les détenus qu'il fallait regagner leurs cellules et leurs dortoirs et éteindre les feux. Mais aucune allusion ne fut faite au sauf-conduit, comme si Philippe et Dolorès eussent mutuellement voulu cacher à Antoinette que son arrivée imprévue les empêchait de recouvrer sur-le-champ leur liberté. Le lendemain, dès le matin, Dolorès descendit seule dans la salle commune. Elle y trouva Philippe et eut avec lui un assez long entretien. Elle lui tint un langage à la fois sévère et fraternel. « Puisque Dieu nous a réunis ici, lui dit-elle, jouissons des heures qu'il nous accorde et ne l'irritons pas en laissant exister des divisions entre nous, alors que la paix et la concorde forment nos seules consolations. Je ne veux plus connaître tes sentiments, quels qu'ils puissent être. Tu ne dois avoir en vue que deux choses, Philippe, c'est que jamais, jamais, je ne serai ta femme et que tu dois à Antoinette une réparation. C'est là le devoir que la vie t'impose. Hors de là, le reste est fantaisie et caprice. Donc, prends-en ton parti et ne nous désespère plus par le spectacle de ta tristesse. Elle me déchire le cœur et ne peut changer en rien ce qui est. » Philippe écoutait, le front incliné, cette ferme parole. Il se disait « Elle a raison. Qu'importe que l'avenir semble devoir m'éloigner d'elle, puisque le présent me laisse à son côté. Nous vivons ici toujours à la veille de la mort. Ce n'est, hélas, que si nous y échappons, que nous pourrons avoir le droit de former raisonnablement quelques projets. » Ses pensées, dirigées de la sorte, se trouvèrent bientôt d'accord avec celles qu'exprimait Dolorès. Il fut touché, convaincu, et tout en se jurant de garder dans son cœur son espérance et son amour, il s'inclina sur la main de Dolorès, qu'il porta à ses lèvres en disant « La sagesse est dans ta bouche, ma sœur, je serai digne de toi. » Cette journée fut la première qui s'écoula complètement heureuse pour les trois êtres dont nous avons entrepris de raconter la vie. Malheureusement, après les épreuves qu'ils venaient de traverser, ce bonheur si longtemps cherché ne devait durer qu'un jour. Le lendemain de la scène qui vient d'être retracée, vers 4 heures du soir, tous les prisonniers étaient réunis dans la salle commune. C'était à la fin de décembre. La nuit arrive vite en hiver. Déjà le crépuscule, allongeant son ombre sur les murs de la prison, avertissait les détenus que le moment approchait de rentrer dans leur chambre. Ils venaient de prendre le repas. Et soit que dans les faits l'amitié les eût promptement unis, soit que, toujours menacés, ils furent naturellement attirés les uns vers les autres, en ce moment, ils demeuraient ensemble sous l'œil attentif des geôliers qui allaient et venaient autour d'eux et se faisaient à la hâte des confidences solennelles comme si cette heure eût été leur dernière heure. Tout à coup, dans cette foule, ils étaient au moins 300, un mouvement se produisit. On entendit une longue rumeur. Ceux qui étaient les plus rapprochés de la porte se pressèrent contre ceux qui en étaient éloignés. Et bientôt, ils se trouvèrent le long des murs, ayant laissé au milieu d'eux un grand espace vide. Un homme venait d'entrer. Il était vêtu de noir. Une cocarde rouge était attachée à son chapeau. Il tenait à la main une liasse de papier chargée d'écriture. À ses côtés marchaient quatre soldats. Dans sa personne, il était facile de reconnaître un huissier du tribunal révolutionnaire. Instrument inconscient du bras qui frappait des innocents, c'est lui qui venait lire, au sein des prisons, les listes de proscription et remettre aux détenus désignés par le comité de salut public leur acte d'accusation. Comme un fantôme menaçant, il se présentait tous les jours, à la même heure, rigide, inflexible, cruel, sourd aux supplications et aux larmes, sinistre avant-coureur du bourreau, désignant les victimes et les marquant pour la mort. Quelque habitude qu'on eût de le voir, sa présence causait toujours un frémissement. Il y avait là tant de jeunesse, tant de sang innocent, tant de beauté, tant de dévouement, tant de grâce. Pourquoi les frappait-on? De quel homme étaient-ils les ennemis? À quel projet faisait-il obstacle? Questions inutiles. C'est parce que Robespierre a appesanti sa puissante main sur les bons, sur les faibles, sur les timides, que son nom est voué à l'éternelle exécration des cœurs généreux. Au moment où l'huissier du tribunal entra, Antoinette et Philippe, auxquels les habitudes de la prison étaient encore inconnues, furent repoussés dans le préau, sans comprendre par qui ni pourquoi. Dolorès, qui savait ce qui allait se passer, resta parmi la foule et au premier rang. L'huissier s'avança, déroula sa longue liste et commença à nommer, à haute voix, tous ceux des accusés qui devaient comparaître le lendemain, dès la première heure, devant le tribunal. Quel mélange de noms! Des plébéiens et des nobles, des religieuses et des prêtres, des royalistes et des républicains, des vieillards et des enfants, des hommes et des femmes, tout était bon, pourvu que la guillotine ne cessât pas de fonctionner. Chaque fois qu'un prisonnier était appelé, une sourde rumeur se faisait entendre et se prolongeait plus ou moins, selon que son rang, son âge ou son sexe, inspirait plus ou moins de sympathie et de pitié. Puis le malheureux s'approchait. Des mains de l'huissier, il recevait un horrible papier timbré, énumérant les griefs imaginaires relais contre lui, et portant l'ordre d'avoir à comparaître le lendemain devant ses juges. S'il avait autour de lui un père, une femme, des enfants, c'étaient des cris et des larmes. On entendait ces mots. « Que ne m'a-t-on pris, moi ? Je voudrais mourir à ta place !» Et des scènes déchirantes commençaient avant même que l'huissier fût parti et se prolongeaient le plus souvent durant toute la nuit et jusqu'à l'heure suprême des adieux. Celui que l'huissier désignait était-il seul, sans famille, il s'avançait d'un pas ferme, prenait stoïquement son arrêt de mort et rentrait en chantonnant dans la foule où 10 mains inconnues, mes amis, se tendaient vers lui comme pour affermir son courage. Autant d'appelés, autant d'épisodes nouveaux. Dolorès assistait d'un œil attristé à ce spectacle. C'est ainsi que, peu à peu, elle avait vu, durant son séjour dans la prison, disparaître bien des justes. Ce jour-là, son émotion n'était ni plus ni moins grande que les jours précédents. Les yeux et le cœur s'accoutument à tout. Soudain, elle tressaillit. Ceux qui l'entouraient la virent chanceler et pâlir. Elle venait d'entendre appeler Antoinette de Mirandol. Elle regarda autour d'elle, ne vit pas son amie et se réjouit. Antoinette était avec Philippe dans le préau. Elle ne répondit donc pas à l'appel de son nom. L'huissier le prononça d'une voix plus forte. Alors, le visage de Dolorès, subitement rasséréné, s'éclaira d'un rayonnement sublime. Sur ses traits passa un sourire qui avait quelque chose du ciel. « Antoinette de Mirandol !» répéta pour la troisième fois la voix terrible. Dolorès s'avança. « Me voilà, dit-elle. Pardonnez-moi, citoyen. Il est bien permis de ne pas entendre. Es-tu la citoyenne Mirandol ? » Elle-même. À ce mensonge généreux, par deux fois répété, il y eut, parmi ceux qui connaissaient Dolorès, un murmure d'admiration, de surprise et de terreur. Pour elle, sans en rien entendre, l'œil rempli d'une héroïque fierté, elle prit d'une main ferme l'acte d'accusation qui lui était tendu et regagna lentement sa place. Le nom d'Antoinette, pour laquelle elle venait de répondre, était le dernier sur la funèbre liste. Tous ceux que je viens d'appeler seront jugés demain à 10 heures. Ayant ainsi parlé, l'envoyé du tribunal se retira. Il y eut alors comme un soupir de soulagement poussé par ceux qui n'avaient pas été désignés. En même temps, Dolorès fut entourée par ses amis. « Malheureux enfant, qu'avez-vous fait ? Étiez-vous donc si pressé de mourir ? Pourquoi vous présenter, puisque ce n'était pas vous qu'on appelait ?» Elle promena sur ceux qui lui adressaient ces questions son tranquille regard. Puis, d'une voix où la supplication se mêlait à l'énergique accent qui dénotait l'immuabilité de sa résolution, elle dit « Je demande qu'on me laisse la liberté de mon dévouement et qu'on n'en trouble pas le bonheur en essayant de m'en détourner. Je demande surtout qu'on me garde le secret. » Personne ne répondit. Le vœu qu'elle venait d'exprimer était un ordre et, comme après tout de pareils actes n'étaient pas rares, quelques instants après, celui qu'elle accomplissait avec tant de vaillance et qui allait lui coûter la vie était oublié de ses malheureux compagnons d'infortune, entièrement absorbé par la question de savoir si, le lendemain, leur tour n'arriverait pas. Dolorès passa au milieu d'eux. Chacun s'écarta devant elle en s'inclinant. Elle rejoignit Antoinette et Philippe, qui, de cette scène, ne connaissaient rien. Quand elle parut devant eux, son visage ne gardait aucune trace d'émotion. Elle avait caché sous le fichu qui couvrait sa poitrine le fatal papier. Elle s'entretint avec ses amis jusqu'au moment où un son de tambour vint ordonner aux prisonniers de rentrer chez eux. Alors, elle tendit en souriant la main à Philippe. « Bonne nuit !» lui dit-elle. Prenant ensuite sous son bras le bras d'Antoinette, elle regagna avec elle la cellule qu'elles occupaient en commun. Antoinette entra la première et Dolorès se trouva ainsi seule dans le grand corridor. Elle revint en courant sur ses pas, cherchant le guichetier Aubry. Elle le rencontra sur le champ. Il ne savait rien de ce qui venait de se passer. « Où vas-tu ? » demanda-t-il à Dolorès, d'un ton moitié bienveillant et moitié grondeur. « Je te cherchais, » répondit-elle. « J'ai un avis à faire parvenir ce soir même à Courcegol. »« C'est que je ne sais pas si je pourrais sortir. » « Il le faut, » reprit-elle vivement. « Il est indispensable que je voie Courcegol demain matin à 9 heures. S'il tardait, il ne me trouverait plus ici. » Et comme, d'un regard étonné, Aubry l'interrogeait, elle ajouta « Je comparais demain devant le tribunal. »« Toi, j'espérais qu'on t'oublierait. » « Silence, pas un mot à mes amis et surtout à la jeune fille qui partage ma chambre. » Si tu m'aimes un peu, avertis Courcegol et tu feras une bonne action dont tu seras un jour récompensé. » Sans rien ajouter, elle laissa le guichetier à l'affliction véritable qu'il éprouvait et rentra dans sa chambre où l'attendait Antoinette, dont elle ne voulait pas exciter les soupçons. Dolorès dormit d'un sommeil profond jusqu'au jour. À son réveil, elle se sentit inondée d'une pure et sainte joie en songeant qu'elle allait couronner héroïquement une vie faite de dévouement et de sacrifices. Elle ne se méprenait pas sur la portée de l'acte qu'elle devait accomplir. Elle savait pour quelle part y entrait le renoncement de soi. Elle savait que sa mort ne serait pas sans grandeur. Mais, même en comprenant qu'elle dépassait de beaucoup la limite des obligations qu'impose le devoir, elle était sans regret et sans trouble. Elle se leva bientôt et apporta dans sa toilette plus de coquetterie que de coutume. Elle se vêtit d'une robe en laine grise. Sur ses épaules, elle posa un fichu de soie de même couleur, noué derrière sa taille. Sur sa tête, un chapeau de feutre de forme élevée, tel qu'on les portait à cette époque, et d'où ses cheveux d'or descendaient sur son cou en lourds bandeaux. Jamais elle n'avait été plus belle. La grâce de son visage éclaté, comme si un rayon d'immortalité s'y fût reflété. La sérénité de son cœur, l'enthousiasme qu'elle puisait en elle-même, la sincérité de ses croyances, donnaient à ses traits un charme indicible. Puis elle s'agenouilla, et durant 1 heure, elle laissa son âme s'élever en aspirations ardentes vers le Dieu dans le sein duquel elle allait reposer. Elle était doucement émue, mais de ses yeux ne coulaient point de larmes. « La mort, pensait-elle, n'est qu'un passage à une vie meilleure. Dans les sphères inconnues que mon âme habitera, je vais rejoindre tous ceux que j'aimais et qui sont partis avant moi, le marquis dont la bienfaisance assura mon sort, la marquise dont la tendresse me rendit une mère, Ma mère est le même qui mourut en me donnant le jour. Ceux que je laisse ici-bas, je les attendrai là-haut, en veillant sur eux, en priant pour leur repos, pour leur bonheur. » Ces pensées consolantes se pressaient dans son imagination comme pour assurer à ses derniers instants les espérances qui rendent les faibles forts et indomptables, même devant le plus affreux des supplices. Elle se releva tranquille, calme, et s'approcha du lit d'Antoinette. Celle-ci dormait. Dolorès la regarda un moment d'un œil attendri.
« Puisse ma mort te donner le bonheur, murmura-t-elle, et puisse Philippe t'aimer autant que je l'ai aimé. »
Elle quitta sa chambre. Dans le vaste corridor, elle rencontra Aubry qui la cherchait. « Votre ami Courcegol vous attend à la grille du préau, murmura-t-il.
« Oh, merci ! » s'écria-t-elle avec joie.
Elle courut à l'endroit indiqué. Courcegol était là, pâle, les traits défaits, les yeux gonflés. Prévenu dès la veille par Aubry, le pauvre homme avait passé la nuit dans la rue, accroupi contre les murs de la prison, pleurant, se désolant, en attendant l'heure où il pourrait rejoindre Dolorès.
« Qu'ai-je appris, mademoiselle ? » fit-il en la voyant. « Vous êtes traduite devant le tribunal ? Oh, c'est impossible ! Il y a une erreur. Vous ne pouvez être accusée d'aucun crime. On ne peut songer à vous châtier comme si vous aviez conspiré ou émigré. »
« J'ai reçu hier l'ordre de comparaître et mon acte d'accusation. »«
Malheur sur nous, » continua Courcegol. « Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté ? Pourquoi n'avoir pas usé du sauf-conduit que je vous avais procuré ? Vous seriez en ce moment libre, heureuse. »
« Mais Antoinette serait hors d'état de se sauver. »
« Et que m'importe mademoiselle de Mirandol ? Elle ne m'est rien, elle, tandis que vous, vous êtes presque ma fille. » Si vous mourrez, je ne vous survivrai pas. J'ai accompli des prodiges pour arriver à vous faire échapper de cette prison. Je caressais l'espoir d'assurer la tranquillité de votre existence, et par votre imprudence, vous avez rendu mes efforts inutiles. Oh, Dieu n'est pas juste.
Courcegol, par pitié, apaise-toi.
Mais il n'entendait rien. Il parlait avec violence. Ses sanglots arrêtaient ses paroles dans sa gorge. Il gesticulait, il formait mille plans, plus fous les uns que les autres. Tantôt, il voulait enlever Dolorès sur le champ, tantôt aller supplier les juges. Il songea même à obliger Vauclas à intervenir en faveur de Dolorès. Celle-ci s'opposa à ce qu'aucune tentative fût faite pour la sauver.
« Va, mon bon Courcegol, je ne suis pas tourmenté par la pensée de mourir. Ma vie ici-bas n'était bonne à personne. » « Ceux qui me pleureront puiseront la consolation dans l'espoir de me trouver ailleurs. »«
Et croyez-vous que cet espoir puisse me suffire ?» s'écria Courcegol. « Depuis qu'au seuil du château de Chamondrin, je vous recueillis sur le sein tari de votre mère expirante, je vous ai aimé de plus en plus. Je me sentais père. Par vous seul, j'étais encore quelque chose. Je ne pouvais former aucun projet en dehors de vous. » Vous étiez mon sourire, mon bonheur, tout ce qui faisait le charme de mes jours. Et vous voir condamnée, vous, innocente ?
Il s'arrêta et ses accents s'éteignirent dans des soupirs de colère et de douleur.
« Montrez-moi l'acte d'accusation, » dit-il tout à coup.
« À quoi bon ? » demanda Dolorès, qui voulait taire jusqu'au bout la vérité.
« Je veux savoir de quel crime on vous accuse. Ces griefs ne peuvent avoir ni consistance ni preuve. » « Je vous chercherai un avocat. Au besoin, je présenterai moi-même votre défense. »«
C'est inutile, mon ami. Si je dois être condamné, tes démarches te compromettraient sans me sauver. »
Comme elle venait de prononcer ces paroles, elle entendit marcher rapidement derrière elle. Elle se retourna. L'huissier, qui s'était présenté la veille, venait chercher les accusés pour les conduire au tribunal. Il commençait de nouveau l'appel de leur nom.
« Adieu, adieu !» murmura Dolorès d'une voix étouffée.
Pour la première fois, elle éprouvait, en se séparant de l'un de ceux qu'il avait aimés, un serrement de cœur.
« Non, pas adieu !» répondit Courcegol. « Au revoir !»
Et sans rien ajouter, il s'éloigna. Dolorès, ayant regardé autour d'elle, ne vit ni Philippe ni Antoinette. Elle en fut heureuse.
Elle redoutait toutes les émotions qui pourraient affaiblir son cœur, et, dès ce moment, elle caressait l'espérance d'emporter avec elle dans le tombeau le secret du dévouement qui lui coûtait la vie. Elle ne voulait pas que Philippe apprît jamais qu'elle était morte à la place d'Antoinette, de peur que celle-ci ne lui devînt odieuse et ne fût condamnée à subir d'éternels remords. Il était 9 heures. Elle se rendit dans la salle commune. 20 personnes environ s'y trouvaient. C'était pour la plupart des malheureux qui allaient, comme Dolorès, comparaître devant le tribunal. Mais tous ne goûtaient pas une sérénité semblable à la sienne. L'un, un jeune homme, assis sur une chaise, isolé au milieu de ses compagnons, laissait errer ses regards sans les arrêter sur aucun des objets qui l'entouraient. Si son corps était dans cette salle, assurément son esprit voyageait loin de là. Il songeait sans doute aux jours écoulés, dont les souvenirs assiègent en foule la pensée des mourants. Plus loin, un vieillard désigné pour l'échafaud essayait de surmonter sa propre émotion pour prodiguer ses consolations à une jeune femme, sa fille, suspendue à son cou, échevelée et noyée dans les larmes. Ici, un prêtre disait son bréviaire, s'interrompant quelquefois pour répondre à ceux des prisonniers qui, dans ce suprême moment, venaient solliciter de lui la bénédiction solennelle qui, selon la croyance catholique, assure à l'âme la jouissance éternelle du ciel. Ainsi, les quelques individus réunis dans cette salle, diversement préoccupés, formaient des groupes où ceux qui devaient mourir déployaient plus de force, plus de résignation que ceux qui leur survivaient. Dolorès s'approcha du prêtre. « Mon père, dit-elle, en revenant du tribunal, je vous prierai d'écouter l'aveu de mes fautes et de les absoudre. » À l'aspect de cette belle jeune fille qui entrevoyait sans faiblir la perspective du dernier supplice, le prêtre ferma son livre et, d'une voix émue, « Et quoi, vous aussi, dit-il, vous êtes marqué pour le bourreau ? Vous n'avez pas dû conspirer, cependant. Les infâmes ne respecteront-ils donc rien ?»« Je suis heureuse de mourir, » répondit simplement Dolorès. Devina-t-il que cette résignation cachait un grand sacrifice ? Peut-être. Il regarda la jeune fille avec admiration, s'inclina respectueusement et reprit « Vous nous donnez à tous l'exemple de la fermeté, mon enfant. Si vous êtes condamné, je vous donnerai l'absolution et je vous demanderai d'adresser à celui qui exauce les prières des innocents une prière pour moi. » Il y avait tant d'émotion dans son accent que Dolorès s'éloigna en proie à une pitié profonde. Elle plaignait tous ceux qui allaient être frappés sans songer à pleurer sur soi. Comme la veille, lorsqu'on appela mademoiselle de Mirandol, Dolorès se présenta. Elle se plaça avec les autres accusés, entre la double haie des soldats qui devaient les conduire au tribunal. Puis le triste cortège se mit en route en suivant les corridors intérieurs. Au moment où il fit son entrée dans la salle, une immense acclamation retentit. Cette salle était pleine d'une foule horrible, composée de sans-culottes et de tricoteuses, qui venaient tous les jours réjouir leurs yeux des angoisses des accusés et les accompagner à l'échafaud. Jamais l'ivresse du sang ne fut plus complète et plus longue qu'en ces tristes temps. Ces misérables en étaient comme inextinguiblement altérés et se réjouissaient devant toute victime nouvelle, quelle qu'elle fût. Les accusés traversèrent cette cohue menaçante, protégés à grand-peine par les soldats. Dans un espace laissé vide, entre la barre et les sièges des juges, on les fit asseoir au nombre de 11 sur un banc de bois, pressés les uns contre les autres, au point de ne pouvoir faire un mouvement. À leur droite était le fauteuil de l'accusateur public, à leur gauche la place des jurés. Ils attendirent 10 minutes environ au milieu du bruit. Tout à coup, une porte s'ouvrit dans l'angle droit du prétoire. Le tribunal entra. Les juges étaient vêtus de noir, coiffés d'un chapeau à plumes et ceints d'une écharpe. L'accusateur public prit place sur son siège, tandis que les jurés s'installaient bruyamment. La séance s'ouvrit. Rien de plus sommaire et de plus expéditif que la justice de ce tribunal. Le plus souvent, les accusés ne connaissaient pas les causes pour lesquels ils étaient traduits devant lui. Ce qu'on appelait l'acte d'accusation était généralement un morceau de papier couvert d'une écriture informe, illisible, qu'il fallait renoncer à déchiffrer. Le président prononçait un nom. L'individu désigné se levait, répondait aux demandes qui lui étaient adressées. Ses réponses étaient-elles embarrassées? Son embarras devenait la preuve de sa culpabilité. Était-elle longue? Le président lui imposait silence. On entendait des témoins, témoins à charge ordinairement, ceux qui se présentaient en faveur de l'accusé étaient malvenus. Puis l'accusateur public parlait 5 minutes et le jury rendait son verdict selon les termes duquel, l'accusateur ayant requis l'application de la loi, le président acquitté ou condamné. Sous cette forme rapide, la justice se rendait en quelques instants. Ce jour-là, de 10 heures à midi, 11 personnes furent condamnées à mort. Dolorès fut interrogée la dernière. « Ton nom ?» demanda le président. « Antoinette de Mirandol. » Comme elle venait de prononcer ce nom, elle entendit à quelques pas derrière elle un cri mal contenu. Elle se retourna vivement. Au premier rang, parmi la foule, appuyée contre Bridoul, dont le visage exprimait une tristesse profonde, elle vit Courcegol, les lèvres crispées, le visage enfiévré. Il venait de comprendre l'héroïque sacrifice de Dolorès. Comme si elle eût craint qu'il ne la trahît, d'un coup d'œil, elle lui commanda le silence. C'était inutile. Il savait bien que tout aveu eût été en ce moment inutile et tardif, et que la vérité eût perdu Antoinette sans sauver Dolorès. Des faits semblables n'étaient pas rares alors. La précipitation de la procédure était une cause quotidienne d'erreurs que l'on ne reconnaissait que lorsqu'il n'était plus temps de les réparer. C'est ainsi que l'on avait vu, peu de jours auparavant, un fils condamné à la place de son père, un père condamné à la place de son fils, et un autre malheureux payé de sa tête la similitude de son nom avec le nom d'un accusé, à la place duquel on le traduisit au tribunal et avec lequel il fut guillotiné, Fouquier-Tinville ignorant quel était celui qu'on avait voulu désigner et trouvant préférable de faire périr 2 innocents plutôt que de s'exposer à épargner un coupable. Dolorès fut condamné à mort sous le nom d'Antoinette de Mirandol. L'arrêt rendu, la tâche des juges était terminée. Ils allaient se retirer et l'on se préparait à entraîner les malheureux quand soudain un homme s'élança du milieu de la foule jusque devant la barre et d'une voix de stentor il s'écria « La sentence que vous venez de rendre est inique. Vous n'êtes pas des juges, vous êtes des assassins et des bourreaux. » Puis il croisa ses bras sur sa poitrine et son regard audacieux sembla défier les juges, indignés et en proie à la plus vive colère. « Qu'on arrête cet homme !» s'écria l'accusateur public. 2 gendarmes s'avancèrent. L'accusateur, s'adressant au tribunal, ajouta « Citoyen juge, je traduis cet individu à votre barre. Interrogez-le et que les citoyens jurés prononcent sur son sort. » C'était Courcegol qui, entendant condamner Dolorès, avait soudain résolu de ne pas lui survivre et de mourir avec elle. « Le malheureux !» murmura la jeune fille qui, pour la première fois depuis le matin, sentit couler sur ses joues 2 grosses larmes. Courcegol la regardait comme pour lui demander si elle le trouvait digne d'elle. Pendant ce temps, le président l'interrogeait. « Il est inutile que l'on cherche à ma conduite une cause autre que celle que je vais avouer, » dit-il tout à coup. « Je suis là des horreurs auxquelles on nous fait assister. Je hais la République et ceux qui la servent. Je suis royaliste et n'ai d'autre désir que de sceller de mon sang l'opinion que je proclame ici. » « Citoyen juré, s'écria l'accusateur avec colère, je requiers contre cet homme un châtiment qui soit un exemple pour ceux qui auraient envie de l'imiter. » « Il est fou, objecta l'un des jurés. « Non, je ne suis pas fou, s'écria Courcegol. À bas la République et vive le roi !» Il y avait dans cette action tant de hardiesse qu'un silence profond s'était fait dans la salle. Juges et jurés se penchaient les uns vers les autres, en proie à une vive irritation. Au bout de quelques minutes, Courcegol fut condamné à subir la peine capitale pour avoir injurié le tribunal dans l'exercice de ses fonctions et poussé devant lui des cris séditieux. Alors il se rapprocha de Dolorès. Elle venait d'éclater en sanglots, accablée par cette scène plus qu'elle ne l'avait été jusque-là. « Pardonnez-moi, mademoiselle, dit-il, d'avoir eu la témérité de ne pas vouloir vous survivre. Mais jusque dans la mort, ma place était auprès de vous. »
« Mon ami, mon protecteur, mon père !» murmura Dolorès.
Et cédant à un irrésistible élan, elle se précipita dans les bras de Courcegol, qui la tint pressée contre sa poitrine, jusqu'au moment où il fut ordonné au condamné de se mettre en route pour regagner la prison. Il devait y faire une halte avant de marcher à l'échafaud.